France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Quatrième épisode de notre série sur le présent, la capture de l'instant. L'instant, c'est le présent réduit à sa pointe ultime, à son élément infinitésimal et fugitif que nous croyons ressentir et dont nous ressentons aussi peut-être plus intensément encore la disparition immédiate. L'instant, comment pourrait-on en parler? Comment pourrait-on le capturer par du langage? Faut-il plutôt une image pour le restituer, une photographie? Ou bien tout cela n'est-il qu'un ensemble d'artefacts qui le reconstruisent en l'ayant évidemment perdu? Écoutez la voix claire du philosophe Yankelevitch qui, en 1959, sur Radio Sorbonne, parle de l'instant avec un brio sans pareil.
Le problème de l'immédiat, la recherche de l'homme, le contact de l'homme avec l'immédiat, c'est l'abolition des dimensions. L'abolition d'abord des dimensions dans l'espace, des trois dimensions qui donnent une épaisseur à l'espace et qui me séparent de la chose. Et d'autre part, la réduction également, la compression du temps jusqu'à l'extrême limite au-delà de laquelle il n'y aurait plus que l'instant. Vous voyez donc que la suppression des intermédiaires, aussi bien dans l'espace que dans le temps, aboutit à quelque chose qui est un immédiat à la fois spatial et temporel, et dans lequel la présence et le présent sont une seule et même chose. Là, la présence qui est la suppression au maximum de l'espace, le présent qui est la suppression des intervalles dans le temps, qui est la réduction du temps au minimum, la minimisation du temps. Donc, en ce point, présence et présent ne sont plus qu'une seule et même chose.
Quel bonheur, ce Vladimir Yankelevitch, on aurait bien aimé être assez court. Réduction du temps au minimum, nous dit-il, c'est ça l'instant. Tout comme on peut penser la réduction de l'espace à un point microscopique, pratiquement sans épaisseur. Alors, pour réfléchir à ce qui se joue là, dans l'instant, et à ce que l'on peut en capturer, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités dont les travaux évoquent tout cela. Bonjour Laurent Génie.
Bonjour.
Vous êtes écrivain et critique, professeur honoraire de littérature française de l'Université de Genève. Vous avez fait paraître en avril 2024 chez Verdier un ouvrage intitulé « Sur l'instant », écrit dans un style fragmentaire qui donne beaucoup à penser. Et bonjour Monique Sicard.
Bonjour.
Vous êtes spécialisée en histoire de la photographie, chercheuse au CNRS dans le domaine de l'image. Vous avez fait une thèse de philo. Je pense que la question philosophique des concepts à mettre en œuvre pour penser l'instant vont bien nous occuper ce matin. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, Monique Sicard, et dirigé notamment un numéro de la revue Genesis en 2015 qui était intitulé en deux mots reliés par un tiret, photographie. Laurent Génie, il existe une polémique à la fois en philosophie et en littérature à propos de la perception. Avons-nous une perception continue des instants successifs que nous vivons ou bien y a-t-il une discontinuité fondamentale entre tous les instants que nous percevons qui sont donc séparés avec des trous au milieu, des vides, des blancs et nous avons beau user d'artefacts pour réélaborer tout cela de manière continue, c'est toujours faux, c'est toujours factice. Cette polémique, pourriez-vous nous en parler un peu et évidemment nous dire comment vous vous situez dedans?
Alors c'est un débat un peu à distance entre Gaston Bachelard et Bergson, un peu à distance parce que Bachelard écrit un livre qui s'appelle « L'intuition de l'instant » au tout début des années 30 et il répond à des thèses de Bergson qui sont déjà plus anciennes, qu'il a développées dans les données immédiates de la conscience et qui ont eu un grand retentissement. Le débat entre eux, il est assez simple. D'un côté, Bergson considère que nous avons une sorte de sens interne du temps continu, et ce sens interne, il l'appelle durée. Mmh. Et Bachelard voit les choses tout différemment. Il pense que notre conscience du temps résulte en fait d'un acte psychologique qui est un acte d'attention. Et cet acte, il est forcément momentané. On peut le maintenir, justement, dans la durée. Du coup, pour Bachelard, la construction d'un temps continu est toujours un peu une fiction. Et ça a évidemment des conséquences littéraires, hein, ce débat. Je dirais que du côté de Bergson, il y a eu une traduction esthétique qui était aussi une trahison des thèses de Bergson. Tout le développement du monologue intérieur, par exemple, chez Joyce, entre autres, mais avant, chez son fondateur, Édouard Dujardin, s'inspire de l'idée que il y a du continu. C'est pas tout à fait le même continu chez les écrivains, hein. C'est un continu de la parole. C'est pas un continu du sens interne du temps. Donc c'est aussi une trahison de Bergson. C'est une interprétation esthétique. Et d'un autre côté, on voit se développer des esthétiques qui sont des esthétiques plutôt du discontinu. Ce qui est le plus frappant, c'est de constater que chez un écrivain comme Joyce, on est passé de l'un à l'autre. Parce que Joyce n'a pas commencé par une exploration du monologue intérieur, il a commencé par un recueil de ce qu'il a appelé des épiphanies, c'est-à-dire des moments très discontinus dont il voulait faire un recueil. Et finalement, ces instants discontinus se sont retrouvés comme noyés dans Ulysse en particulier, dans sa grande œuvre, et sont devenus des sortes, ce que j'appelle des noyaux énergétiques de l'œuvre, mais dissimulés.
Donc au fond, il y a une littérature qui reconstruit la continuité, qu'on peut donc considérer comme factice, mensongère, mais c'est la beauté de l'art aussi.
Oui.
Et il y a une autre littérature qui défait ces fausses continuités et qui veut restituer le discontinu, les trous, les vides, les blancs entre les instants. Et finalement, Joyce passe d'un cas, d'un pôle à l'autre.
Oui.
Et vous, si j'ose dire, Laurent Génie, vous êtes écrivain.
Oui.
Est-ce que la grande affaire de votre écriture n'est pas justement de restituer le discontinu?
Si, mon projet dans le livre que j'ai publié récemment sur l'instant, c'était de faire une autobiographie des instants, mais qui donc défasse les histoires, les fictions par lesquelles nous bâtissons notre existence, et qui en même temps essaye de saisir tout ce qu'il peut y avoir aussi de construit dans la saisie de l'instant.
Parce et donc que même dans le discontinu, il peut y avoir la construction.
La construction. Ouais.
Ah. Oui, au fond, nous n'avons peut-être pas accès au discontinu brut de notre perception. Dès qu'il y a acte littéraire, il y a un artefact qui se met en place, et même pour restituer le discontinu, on pourrait dire qu'il y a encore du factice.
Je dirais que même dans la perception du discontinu, la perception psychologique de l'instant, il y a déjà de la forme. Il y a déjà quelque chose. On n'a pas affaire à une matière qui soit tout à fait dépourvue d'une pré-symbolisation. Il peut y avoir des bribes de mots, il peut y avoir des images qui fixent l'instant.
Alors je vais demander évidemment à Monique Sicard comment la photographie s'empare de ces questions. Mais puisqu'on a évoqué Gaston Bachelard, je me permets d'abord de le faire parler, puisque nous avons ce pouvoir en radio, en sortant une archive de 1951, archive donc de Gaston Bachelard. C'était dans une émission du Club d'essai de la RDF.
Je mets en doute la psychologie de la durée continue, qui est donnée dans la philosophie bergsonienne comme l'étoffe même de notre être intime. Voici rapidement quelques arguments pour lutter contre cette intuition trop élémentaire. Examinez en vous n'importe quel filet temporel et vous verrez qu'il est essentiellement fait d'instants et d'intervalles vides. Il n'est pas continu. La continuité est toute potentielle, toute virtuelle. Il y a donc une dialectique du plein et du vide. Toute évolution temporelle bien spécifiée, est donc une dialectique de la durée. En fait, la durée intime est solidaire d'une œuvre. La durée est une œuvre, une cohésion harmonieuse de rythme. dans des expressions très banales, il y a parfois de grandes vérités. En somme, le temps humain est plus qu'une mélodie, il est une essentielle harmonie des rythmes superposés.
Ce matin, nous avons des voix vraiment extraordinaires. Après Yankelevitch, celle de Bachelard, inimitable. Mais c'est du fond que je voudrais parler avec vous, Monique Sicard. Donc lui, on l'a compris, Gaston Bachelard croit dans le discontinu de la conscience et de la perception, au fond comme Laurent Génie ici présent. Est-ce que vous aussi, avant même de parler de la forme photographie, de ce qu'elle peut faire avec tout ça, vous êtes discontinuiste sur le fond, je veux dire, vous pensez vous aussi que la perception, ce sont des instants discontinus les uns derrière les autres et pas du tout un flux continu bergsonien?
Oui, bien sûr.
C'est sûr pour vous, vous pensez exactement la même chose.
Je suis plutôt du côté du point de chaînette, vous savez. C'est-à-dire que nous reconstituons le présent à partir du passé, et nous avançons tout en reconstituant le passé. Et cela, l'histoire le montre. Mais alors, y compris l'histoire de la photographie qui s'écrit comme ça, avec des références du passé, tout en avançant. Voilà. Et nous construisons l'histoire, donc tout ceci est assez complexe. Et chacun a son temps et ses manières de se représenter le temps et surtout de le vivre.
Mais pour le discontinu, puisqu'on parle de forme, on a parlé de littérature, de poésie, on y reviendra, la photo semble particulièrement adéquate. Est-ce que vous pensez que la photographie restitue ou recrée de manière extrêmement évocatrice la discontinuité de la perception ?
Plus que ça, je pense que la photographie est à l'origine de ces questions sur la philosophique, sur la discontinuité du temps. C'est-à-dire qu'il y a eu des travaux de photographiques dans les années 1878-1880 qui ont marqué les esprits et qui les marquent toujours parce que ces travaux ont donné lieu à des images que vous connaissez sûrement. Celle des animaux ou des êtres humains, plutôt clairs, se déplaçant sur des fonds noirs, mais captés par discontinuité, par des images discontinues qui se succèdent. Voilà, donc il s'agissait de traduire le discontinu.
Mais par une série photographique.
Ces images sont très importantes et ont marqué Bachelard, ça c'est clair. Ont marqué les philosophes, ont marqué beaucoup de gens, les artistes aussi. Voilà, il s'agissait d'une représentation du temps. Et je suis sûre que vous les connaissez, ces images, le cheval qui galope, la poule qui avance, l'homme qui marche nu. Voilà, tout ceci sont des images qui sont passées dans le
grand public.
Dans le grand public et qui ont marqué les esprits et surtout, je dirais, les philosophes, puisqu'ils donnaient une image du temps discontinue, c'est-à-dire qui manque. Voilà, ça donne une représentation du temps. Mais il y manque des morceaux, si vous voulez.
Laurent Génie, est-ce que, de ce fait, on peut dire que la poésie ou l'écriture permet de... Enfin, a pour modèle quasiment la série photographique que vient d'évoquer Monique Sicard. C'est peut-être un idéal du poète ou de l'écriture fragmentaire comme la vôtre, que de produire ce que produit une série photographique, c'est-à-dire une série, oui, mais avec plein de discontinus à l'intérieur.
Alors, je crois que ce qu'offre de nouveau la photographie, c'est ce qu'on pourrait appeler une technologie de l'instant. Mais si je peux me permettre de revenir un petit peu en arrière sur la question du discontinu, il n'a pas cette sensibilité n'a pas attendu Bachelard. On peut dire que ce qui change avec au XVIIIe siècle avec l'empirisme et le sensualisme, c'est la substitution d'un « je sens donc je suis » à un « je pense donc je suis ». Mais le problème du « je sens donc je suis », c'est que la sensation est évanescente, qu'elle est discontinue, et qu'il faut la recueillir, en quelque sorte, l'intensifier, la répéter. Et c'est là que vont se nouer des questions, la question du temps et la question de l'esthétique. c'est aux artistes, aux écrivains, aux poètes, que va être dévolue la mission de recueillir et d'intensifier les instants. C'est quelque chose que qu'on voit apparaître très clairement chez de nombreux poètes du XVIIIe, chez Rousseau, du côté anglais, chez Wordsworth. Si vous voulez, il me semble que il y a un premier ancrage avant, bien avant, donc
bien avant la
photographie, où se conforter dans l'existence, c'est confier à une forme esthétique une sorte de consistance de l'instant, de répétabilité, d'intensification aussi des instants.
Je vais me permettre de vous citer.
Ouais.
Tous ces blancs, écrivez-vous dans votre dernier livre chez Verdier sur l'instant, tous ces blancs de ma vie qui constituent le fond des instants, les blancs que sait si bien figurer le papier. Et vous évoquez aussi ces phrases, le temps de l'instant disparu, s'est réfugié dans celui de la phrase qui le recueille. Mais ce recueil qu'opère la phrase, dites-vous, il ne faut surtout pas que ce soit un artefact qui crée plus de continu qu'il n'y a eu entre tous les instants. Ce que vous aimez, c'est les phrases qui creusent encore le problème du discontinu de la perception.
Oui, la phrase elle-même est fragmentaire. C'est à la fois ce qui donne des contours à l'instant et ce qui l'expulse de lui-même, de ce qui a été son germe vécu. Je crois que l'accès, si vous voulez, à l'instant dans sa pureté est un mythe. Il n'y a pas d'accès possible sans une médiation par des images, effectivement, par des mots.
Voilà. Ne vous interrompez pas, c'est tellement beau. D'ailleurs, je vais encore citer une phrase de vous.
Oui.
L'instant est une île perdue en pleine mer, passionnante et explorable, à laquelle on est cloué. Infiniment explorable, écrivez-vous,
oui.
Et à laquelle on est cloué. On est cloué, c'est explorable, mais c'est ce qui limite aussi l'exploration qui vous intéresse, puisque vous venez de dire l'instant pur, on n'y a pas accès. Une fois qu'il est passé, c'est terminé. On ne peut pas vraiment aller sur cette île qu'est l'instant, puisque vous parlez ainsi.
Non, on peut aller vers son analogone, c'est-à-dire un instant qui est un instant toujours formel. On est dans le temps de la forme.
Oui.
Hein, on est dans
le nouveau
dans le
temps
de
que
forme.
Crée la phrase.
Ouais.
Alors il y a un nouveau temps de la photo peut-être aussi. Et là, vous parliez du mythe d'accès à l'instant pur.
Oui.
Monique Sicard, ce mythe est puissant en photographie. On croit volontiers que la phrase ne peut pas restituer l'instant pur, mais la photo le peut. Que pensez-vous de ce mythe ?
Oui, c'est un mythe. je suis tout à fait d'accord.
Pourquoi ?
Parce que nous avons des images, ces instantanés photographiques, qui sont nés de divers dispositifs et qui ne sont pas les mêmes d'ailleurs d'un photographe à l'autre. Ça, nous pourrions revenir là-dessus. Eh bien, toutes ces images-là ont eu un impact sur la pensée philosophique.
Oui.
Vous imaginez avoir l'image d'un instant, l'image de quelque chose qui n'a pas d'image, précisément.
En fait, c'est un désir que nous avons de croire que c'était le vrai instant. Mais il y a quelque chose de factice, là.
Oui, parce que nous ne nous interrogeons pas sur ce qu'est l'instant, comme le fait M. G.
Oui. Il y a des grands photographes qui ont appuyé sur ce mythe. Écoutez cette archive d'Henri Cartier-Bresson. C'était sur France Culture dans Le Bon Plaisir, le 14 septembre 1991.
Dans la photographie, il y a un plaisir, une joie physique. Tu comprends ? C'est la liberté physique en même temps. Il y a un événement qui monte. Et à un moment, il y a tout l'ordre géométrique qui est là en même temps que l'événement. Si on n'appuie pas à ce moment-là, c'est fini. Ça ne recommencera pas. Et tout est enregistré. C'est ça qui est gênant. N'est-ce pas? Alors là, c'est ça qui est très, très décourageant. C'est plein d'épluchures, nos feuilles de contact, parce qu'on cherche une chose. Il y a une espèce de tension, comme ça, d'un événement important. On sent que ça monte, et puis, comme un. Hop, ça y est, c'est comme un orgasme, presque. Mmh. Et c'est une joie physique, la photographie.
L'orgasme de l'accès à l'instant décisif. Peut-être que Henri Cartier-Bresson n'est pas réductible à ce propos que nous venons d'entendre, mais ce propos, en tout cas, soutient Monique Sicard, confirme l'idée, le mythe de l'accès à l'instant, le vrai instant orgasmique, dit-il en plus.
Donc Henri Cartier-Bresson parle de la, du l'instinct de la prise de vue, voilà, et uniquement.
Oui.
Et ce que j'ai voulu dire dans les ouvrages, dans les articles que j'ai écrits, c'est que la photographie ne se limite pas à l'instant de la prise de vue. C'est une utopie. Mais effectivement, Henri Cartier-Bresson en parle très bien. Il a eu cette formule de l'instant décisif qui fait fureur toujours, qui est citée partout. Cet instant décisif qui nous donne à voir un monde que nous ne soupçonnions pas. Il nous donne des images. De quelque chose qui existe et que nous ne voyons pas. C'est extraordinaire, quand même.
Mais c'est faux pour vous ? C'est faux, c'est... Non, c'est pas faux.
Ah non, j'ai pas dit cela. Non, je n'ai jamais dit cela. J'ai juste dit que l'instinct de la prise de vue n'est pas le tout de la photographie. Il suffit d'en parler avec des photographes, des artistes photographes qui sucent en haut parce que il a fallu attendre 2 ans pour réaliser une photo, parce que il a fallu attendre 9 ans pour les produire en public. Vous voyez, les artistes vous parlent de tout cela, de la très longue durée de la photographie. Henri Cartier-Bresson vous parle du moment du déclenchement. Voilà.
Il saisit. Qui est déjà un moment esthétique. C'est déjà un moment où la forme prend forme. Le moment du déclenchement chez Cartier-Bresson.
Oui, c'est un moment esthétique.
Oui.
Mais si j'entends bien ce que vous dites, Monique Sicard, ça voudrait dire que la photo donne l'impression de ne pas être narrative, d'être une pure fulgurance d'un instant. Mais. Ce que vous dites, c'est pas vrai, c'est narratif aussi, c'est une histoire, c'est vous qui avez employé ce mot, c'est une histoire dont cet instant photographique n'est qu'un moment qui ne peut se comprendre que dans l'histoire du photographe par rapport à ce qu'il a photographié.
Oui, j'ai dit cela, oui, je pense, oui.
Mais alors là, on touche un point, moi, ça me passionne, hein, ça me dérange pas du tout, qui est le narratif, parce que je crois quand même qu'il y a une esthétique du discontinu en littérature. Une pensée de la poésie qui déteste le narratif. Le narratif, pour le coup, c'est l'artefact qui recrée trop de continu. On fera bientôt une série sur le surréalisme. Ils n'ont pas écrit beaucoup de romans. Le narratif est un problème. C'est pas la bonne forme, me semble-t-il, pour des gens qui ont votre esthétique, Laurent Génie, celle de restituer plutôt le discontinu que l'artificiel continu.
Oui. Ces deux questions qui sont quand même étroitement nouées. Et si je peux reprendre à partir de Cartier-Bresson, l'instant décisif, il a une tradition esthétique au XVIIIe siècle. C'est un problème. Le problème que se posent les peintres au XVIIIe siècle, le problème de l'instant, il est très présent, par exemple, chez Diderot.
Oui.
Alors, Diderot a une formule qu'il faut, qu'on serait tenté de prendre à tort. Il répète dans les salons, le peintre n'a qu'un instant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas du tout dire que c'est un peintre instantanéiste, mais ça veut dire que le peintre doit raconter une histoire en un instant. Mm-hmm. Il s'agit de concentrer une histoire dans un instant. Et, c'est pas l'instant décisif, la formule qui apparaît chez Diderot, c'est l'instant le plus fécond. Et l'instant le plus fécond, on s'aperçoit qu'il contient un peu de durée. C'est-à-dire que pour bien choisir au sein d'une histoire le bon moment à peindre, il faut qu'il y ait un peu d'avant et un peu d'après, un peu de passé, un peu de futur dans l'image elle-même. C'est ça l'instant le plus fécond. Donc c'est celui qui va raconter tout de même, hein, ou synthétiser. Donc, on n'est pas du tout dans l'instantané. Hein.
Je vous pensais beaucoup plus sévère avec la narration, parce qu'il y a eu une époque littéraire
Oui.
sévère, avec la narration. Les années 60, 70, il y a eu beaucoup de procès faits aux romans. On n'est plus du tout là-dedans aujourd'hui.
Oui.
Mais vous qui écrivez des fragments, qui êtes poète, en prose ou non, je pensais que vous seriez très sévère avec la narration.
Je serais sévère avec l'autobiographie narrative. Le récit fictif se donne pour fiction, pour construction.
Puis c'est le mythe du contenu.
Et personnellement, ça ne me fait pas problème. Ouais. Ce qui me fait davantage problème, c'est les histoires de vie. Et la construction des histoires de vie. Hein. Et
pourquoi ?
Pour les raisons bachelardiennes.
C'est-à-dire qu'on met du continu dans du discontinu, c'est ça ?
Ce oui. serait les raisons de Paul Valéry. Hein, dans les cahiers de Valéry, il y a aussi une critique du caractère fictionnel des histoires. Alors, c'est beaucoup le récit de rêve que critique Valéry. Il dit il n'y a pas de continu, en fait. Dans le rêve, ça, c'est une broderie, c'est une construction après coup. Et il bataille beaucoup dans les cahiers pour essayer d'atteindre à la discontinuité du rêve. Mais c'est aussi sa vision de la personne qui se construit une histoire. Et il y a toute une critique du caractère fictif des histoires qu'on se raconte à propos de soi-même.
Et ces pseudo-continuités dans des choses assez discontinues. Est-ce que vous pensez, Monique Sicard, qu'il faut être précautionneux avec l'emploi du mot narration, même quand vous l'avez utilisé tout à l'heure en disant que finalement dans la photographie, il y a une narration. Mais attention, ça ne doit pas être la jolie histoire continue. C'est une narration trouée. Est-ce que vous faites attention quand vous employez même cet adjectif narratif ?
Oui, bien sûr. Mais moi, fondamentalement, je suis chercheur. Chercheureux, si
je
vous
crois
voulez.
Que c'est comme ça que je vous ai présenté.
Oui, très bien. Donc je porte pas de jugement comme ça. Je suis pas ni pour ni contre la narration. Simplement, j'observe ce qui se passe. Oui. J'essaie de comprendre. Et je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'écriture des romans de vie, etc., qui sont à la mode. Mais il y a une continuité quand même dans l'écriture photographique. Voilà.
Il y a une continuité.
Il y a une continuité.
Ce n'est pas un grand art du discontinu, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
Non, y compris chez Henri Cartier-Bresson, quand vous regardez ses archives, quand vous voyez qu'il y a une continuité, qu'il va photographier une séquence d'une femme qui s'approche dans un jardin public, par exemple, et puis au moment où elle s'approche et où l'image fait sens, il appuie sur le déclencheur.
Oui.
Et après, il y a tout un travail très long de tirage, de cadrage, enfin, de non-recadrage, plus exactement, chez Cartier-Bresson. Voilà, et il présente cela comme l'instant décisif. Mais,
oui.
mais c'est quelqu'un qui attend, qui sait attendre, qui prend en compte la dimension du temps.
Et il y a tout ce temps agglutiné, narré dans la photo.
Il y a tout ça chez
la photo.
Cartier-Bresson, qui est un ultime. Immense artiste. Oui, il y a tout cela chez certains, chez d'autres. La photographie est multiple, elle n'est pas unique. Et elle est à connaître, en tout cas, et à comprendre.
Alors, dans le photojournalisme, évidemment, l'idée que la photo narre quelque chose est très importante. Et il y a beaucoup d'interrogations autour de qu'est-ce qui s'est passé juste avant la photo et qu'est-ce qui s'est passé juste après. Et en particulier, on peut évoquer le cas de Robert Capa, si célèbre. On peut évoquer cette photo si célèbre du républicain espagnol qui se fait tirer dessus et Capa appuie juste là. On a donc cette photo très connue de 1936.
Du débarquement.
Aussi. Et d'ailleurs, il paraît, quand il les a envoyés, je crois, à Londres, beaucoup étaient flous, hélas. Est-ce que c'est vrai, ce qu'on raconte là ?
Oui, mais le flou, c'est...
Oui, je suis d'accord.
C'est le mouvement, c'est l'instant.
Non, mais c'est intéressant.
Nous parlons de l'instant. Oui, il y a du flou dans l'instant. Que vous dire ?
Disons qu'ils ont été surpris, mais en effet, peut-être que le flou...
Ce sont des images qui... Ouais. Surtout, je voudrais attirer l'attention sur la dimension politique de ces images.
Oui. Finalement, c'est bien que l'image soit un peu imparfaite sur le plan formel, ça fait partie de sa narration ?
C'est vous qui dites qu'elle est imparfaite.
Ah non, je dis juste qu'en général, le flou fait flipper les photographes. En général, ils ne sont pas très contents. Mais non, je
l'instant,
pense
que... c'est le flou. C'est
moi, je pose des questions, mais voilà. Ouais,
c'est pas forcément le net.
Oui, c'est voilà. Vrai.
On pourrait discuter ici ou faire une autre émission sur le net en photographie et la valorisation du net.
Oui. Alors, j'aimerais qu'on reparle de Capa, parce que il y a toute une histoire de la photo espagnole que j'ai évoquée. Oui. Je propose de la faire raconter par une reporter, Laurence Cuvillier, qui parlait de cette valise mexicaine. Effectivement, ça a rejoint une ambassade mexicaine, ça va vous être expliqué dans ce reportage, écoutez-le sur France 2, le 29 janvier 2008.
Un trésor pour l'histoire de la photographie. La valise mexicaine, 3500 clichés du grand photographe de guerre Robert Capa, prise pendant la guerre d'Espagne en 1939. Lui-même l'avait cru perdue, et la valise a en effet accompli un incroyable voyage jusqu'au Mexique.
Comment ils se sont retrouvés là, on ne sait pas vraiment. On sait qu'au moment de la Deuxième Guerre mondiale, Capa a fui vers New York et à l'arrivée des Allemands à Paris. Son assistant est parti à Marseille et on suppose qu'il a emporté les négatifs avec lui et qu'ensuite il les aurait confiés à un diplomate mexicain.
Mort d'un soldat républicain, la photo la plus célèbre de Capa. Une controverse suggérait que le cliché avait été mis en scène, mais le contenu de la valise mexicaine pourrait aider à résoudre le mystère. On y recherche actuellement les clichés pris juste avant et juste après celle du soldat pour comprendre ce qui s'est réellement passé.
On n'a jamais retrouvé ces clichés du juste avant et du juste après l'image du soldat. Je me trompe, Monique Sicard ?
Non, il y a encore des polémiques, des débats sur cette image-là, oui.
Donc nous avons affaire là à un instant photographique énigmatique, parce
l'instant
que
de la mort. Oui. C'est l'instant de la mort et c'est la définition même de l'instant. Quoi. C'est ce passage de la vie à la mort, étymologiquement.
Mais c'est un instant alors qui n'est pas vraiment narratif, parce que ce qui est proprement le discontinu est brut là. On a juste ça. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a eu avant ni après. C'est vraiment l'esthétique ou la politique même du discontinu. L'instant pur en quelque sorte.
L'instant pur, l'instant de la mort, c'est l'instant pur. Voilà. C'est la définition de l'instant même. Enfin, une des définitions. Vous pourrez me dire ce qu'il en est au XVIIIe siècle. Moi, je parle des références des dictionnaires du 19e qui parlent du mot instant, se référant à l'instant de la mort. Mmh. Toujours, c'est la première chose. Ce passage mystérieux, incompréhensible, ce moment insaisissable, c'est cela l'instant.
Oui.
Voilà, et Capa nous en donne une photographie, vous imaginez ?
Sur le plan purement historique, puisque vous êtes une très bonne historienne de la photographie, comment se fait-il que Capa, qui ne va mourir qu'en 1954, hein, qui a certes fui la France en l'Europe en 1939, n'ait jamais voulu récupérer ses clichés qu'il avait confiés à quelqu'un? On sait ça?
Parce que ces clichés nous marquent, nous importent. Aujourd'hui, beaucoup. C'est-à-dire que nous avons une lecture de ces images qui est une lecture contemporaine, qui n'est pas celle de Capa.
Donc lui, en fait, il s'en fichait. Vous nous dites, voilà, c'est une autre époque. Il l'avait fait, non?
Mais d'abord, il n'était pas seul. Il avait sa femme avec lui, qui est morte pendant la guerre d'Espagne. Voilà. Mais on gomme les femmes parce qu'elle a beaucoup œuvré à ces images.
Oui.
Dans l'extrait que vous venez nous présenter, on ne parle que de lui.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Or, ils étaient au moins trois à avoir fait ces images.
Et donc, ils n'ont pas récupéré ces images jusqu'à la mort de Capa.
Ils n'ont pas cherché à les récupérer. Ils n'ont pas cherché à les récupérer parce que c'est aujourd'hui qu'elles nous semblent importantes.
Ah.
Et c'est aujourd'hui que nous semble important, aujourd'hui, j'exagère peut-être, mais le débarquement américain et sur les côtes françaises, vous voyez, ça fait partie de notre histoire, plus que ça. C'est à l'origine de toutes les références aux États-Unis que l'on voit couramment dès que nous descendons dans les rues de Paris ou d'ailleurs, vous voyez. Et ça, les photographies du débarquement ont apporté une preuve supplémentaire de l'aide que nous ont fournie les Américains et les Anglais. Et non, ça reste dans notre histoire, voilà.
Qu'est-ce que ça vous inspire, toute cette histoire de la photo de Robert Capa que nous venons d'évoquer, Laurent Génie ?
Ce que ça m'inspire, c'est qu'il y a... Moi, je pense qu'il y a des esthétiques de l'instant assez différentes en photographie. Et la photo de Capa illustre, je pense, une de ces esthétiques. Je pense à un très beau livre d'un photographe et théoricien de la photo, Arnaud Classe, qui a écrit un livre qui s'appelle « Du temps photographique ». Et il fait une classification des types d'instants photographiques. Et la première catégorie, c'est ce qu'il appelle l'instant subitiste, c'est-à-dire un instant où on capterait presque simplement la graphie de l'instant, presque sans image. Il se réfère en particulier à un groupe de photographes japonais qui étaient réunis autour du mouvement Provoke. Et puis, il évoque d'autres types d'instants, ce qu'il appelle l'instant crucial. Alors là, on se rapproche de Cartier-Bresson. Hein, l'instant crucial, c'est un instant en fait synthétique. C'est l'instant décisif, c'est celui qui rassemble de l'avant et de l'après. Il parle aussi d'un type d'instant photographique, ce qu'il appelle, alors c'est très métaphorique, l'instant fluvial. Ce sont des photographies qui donnent l'impression d'une durée étale, parfois par le jeu des ombres, par exemple, ou par une sorte de statisme et par toutes sortes de moyens esthétiques. Et puis il évoque enfin, qui serait illustré plus particulièrement par un photographe comme Jeff Wall, ce qu'il appelle l'instant de validation. Alors l'instant de validation, c'est un faux instantané. C'est la mise en scène, très très calculée, d'un instant, et qui télescope en fait deux temps. C'est le temps de la construction et puis l'esthétique de l'instantané. Donc ça représente en fait toute une gamme de rapports à l'instant. Et là encore, je crois qu'il faut remonter à l'esthétique picturale du 18e pour voir qu'il y a aussi, dans l'idée dans la pensée de l'image picturale, il y a des régimes de temporalité qui sont assez différents les uns des autres.
Oui.
Je parlais de Diderot et de l'instant le plus fécond. Au même moment, Lessing, qui écrit un essai sur le Laocoon, cette sculpture grecque qui a été redécouverte, réfléchit lui aussi sur la question de la temporalité des images fixes, en l'occurrence d'une statue. Il se pose une question qui peut nous paraître incongrue. Il nous dit, Laocoon, qui est un prêtre troyen qui est broyé avec ses fils par des serpents, n'est pas saisi par le sculpteur au moment où il exprime la plus grande douleur. Il n'est pas saisi à son paroxysme. Pourquoi ? Et Lessing dit deux choses. Alors, il y a une question esthétique. Il dit, si Laocoon avait la bouche grande ouverte, ça serait une faute esthétiquement, ça serait pas beau. Donc ça, c'est une des raisons. Mais une raison beaucoup plus intéressante qu'avance Lessing, c'est qu'il faut que l'image et l'œuvre d'art laissent au spectateur l'achèvement, en quelque sorte, de quelque chose qui s'esquisse dans l'image. C'est au spectateur de finir mentalement ce qui est en train de se dessiner dans l'image. Donc vous voyez, par rapport à Diderot, ces deux esthétiques de l'instant qui ne sont pas les mêmes. Il y en a une qui est tout à fait synthétique et l'autre qui est projective, qui voit l'instant comme l'amorce de quelque chose à venir.
Et je sens bien que la deuxième vous tient davantage à cœur, puisque elle est plus dans le discontinu, c'est-à-dire que ce qu'il faut imaginer n'est pas simplement continu par rapport à ce qu'on voit. Vous aimez cette idée qu'il y a un discontinu que nous-mêmes devons remplir. Nous savons que nous le remplissons par l'artefact de notre imagination. Mais ça, esthétiquement, c'est intéressant. C'est plus intéressant qu'une narration trop exhaustive et trop linéaire.
Trop close, oui. Qui n'a pas de prolongement.
Vous êtes d'accord, photographiquement, si j'ose dire, Monique Sicard, avec cette analyse?
Photographiquement, parce que vous venez de dire, me fait penser à autre chose, au peintre Baudry à la fin du 19e siècle, auquel on avait commandé une fresque pour les vestiaires de l'Opéra de Paris. Il avait fait une esquisse, et tout le monde avait trouvé ça formidable, quoi, dans le mouvement, les danseurs. Et puis, une fois que la peinture a été réalisée, énorme déception, quoi. Plus rien ne bougeait, c'était plus vivant, il n'y avait plus de mouvement et plus d'instant, précisément. Et on n'a pas compris les choses, on en a écrit des textes, parce qu'on se posait la question esthétique, pourquoi est-ce que brutalement l'image arrête le mouvement.
Oui. Donc il faut qu'il reste quelque chose comme un manque dans une image ou dans un vers ou dans une phrase qui évoque de manière discontinue tout ce qui peut se produire à partir de là, ou tout ce qui s'est produit et que la phrase ou l'image essaye de recueillir. Alors, je me pose du coup la question, vous avez tout à l'heure parlé du sommeil, Laurent Génie.
Oui.
Est-ce que, par conséquent, ce n'est pas les moments les plus étranges de la perception qui sont les plus riches sur le plan littéraire? Parce que là, on a vraiment quelque chose de discontinu, d'étrange. Bon, c'est une des choses qu'a pu formuler Pierre Pachet, écrivain, qui nous a quittés il y a quelques années, que vous connaissiez bien.
Oui.
Il parlait du sommeil comme d'une sorte de veille, en vérité. Il y a une étrange vigilance, mais probablement dans l'espace du discontinu. Est-ce que c'est quelque chose de privilégié pour le poète, voire pour le photographe qui pourrait essayer de le reconstruire? Écoutez-le, c'était dans Nuit magnétique, Pierre Pachet, France Culture, le 15 mai 1997.
Je suis, par nature ou par histoire, je ne sais pas, d'une certaine façon hyper vigilant, intéressé par la vigilance, et j'ai une sorte de tendresse pour la nuit, évidemment, pour le sommeil aussi, que j'adore, mais pour la possibilité d'habiter le sommeil vivant, au lieu d'être englouti par lui. Il me semble que le sommeil est un moment humain, une disposition de la vie qu'on peut habiter de façon plus consciente. Le sommeil n'est pas une syncope, il n'est pas un évanouissement, il n'est pas le coma, il est une forme de conscience, il permet des formes de conscience. Donc on peut se mouvoir en lui, le regarder, le décrire, évidemment, avec moins de liberté qu'on ne décrit la veille. Par le sommeil, on perçoit un aspect du monde qui ne se donne que là. On perçoit un aspect de son propre corps, on perçoit des formes de durée qu'on ne perçoit que là. On a en quelque sorte aussi on a une connaissance intime du temps, en tout cas d'un aspect du temps qui ne se donne pas dans la vie, dans l'activité.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
La capture de l'instant, c'est notre sujet ce matin. Nous en parlons avec Monique Sicard, qui connaît très bien l'histoire de la photographie, chercheuse, et Laurent Génie, écrivain et critique, qui vient de faire paraître un ouvrage sur l'instant. Habiter le sommeil vivant. C'est une curieuse formule de Pierre Pachet que nous venons d'entendre. L'idée que ce rapport au temps dans le sommeil existe et est stupéfiant, peut-être est-il particulièrement discontinu, c'est ce que vous aviez suggéré tout à l'heure, Laurent Génie. Est-ce que c'est un objet privilégié pour un écrivain qui s'intéresse à l'instant?
Alors, je ne sais pas. Pachet, dans l'extrait que vous avez passé, parle de... d'un niveau de sommeil assez particulier. C'est un peu provocant ce qu'il raconte sur le sommeil. C'est une position très anti-freudienne et où il renoue d'ailleurs avec des théories du sommeil du 19e siècle où il y a l'idée qu'on pourrait diriger ses rêves.
Oui.
Et donc ce que maintient Pachet, qui, entre parenthèses, était un grand insomniaque, c'est l'idée qu'il y a une sorte de vigilance paradoxale au sein du sommeil, que ce n'est pas un état purement passif et que on peut jusqu'à un certain point vivre des expériences dans le sommeil même.
Des expériences conscientes, dit-il, une forme de conscience.
Je crois que il fait peut-être un peu fi de d'autres états de onirique où il n'y a pas réellement cette vigilance. Hein. On sait maintenant qu'il y a toutes sortes de niveaux de sommeil. Et ce qu'il dit est sans doute vrai pour certains états de sommeil léger, mais en revanche plus difficile à admettre pour le sommeil paradoxal, celui des rêves, qui est profondément nourri d'images discontinues, hein, comme l'affirme effectivement Valérie. Et d'ailleurs, Freud ne dit pas le contraire, parce que quand Freud dit, au fond, il y a un travail qui se fait sur le discontinu, c'est ce qu'il appelle l'élaboration secondaire. L'élaboration secondaire, c'est rien d'autre que la mise en récit d'images discontinues.
Un récit de rêve, c'est littéraire, en fait. Alors, ça fait comme la littérature, ça essaye de raconter quelque chose de discontinu. Alors, ça peut être raté, hein. Il y a aussi de la mauvaise littérature, mais c'est un acte littéraire. C'est ce que vous dites, en fait, là.
C'est un acte de construction. Oui, ça peut faire beaucoup de mauvaise littérature. On a été saturé par le surréalisme de récits de rêve qui n'étaient pas très intéressants, qui se ressemblaient beaucoup et qui cultivaient une sorte de faux merveilleux.
Oui. Hein.
Mais oui.
Je vous trouve sévère, mais bon.
On va bientôt fêter le
centenaire du manifeste du surréalisme d'André Breton, 1930. Oui, on en reparlera, mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, je crois, une réflexion à mener sur cet héritage surréaliste tellement important au XXe siècle. Vous venez exactement de le dire. Monique Sicard, est-ce que le sommeil est un objet photographique?
Est-ce que le sommeil est un objet photographique? C'est un objet artistique, très certainement. Nous avons travaillé avec Jean-Paul Marqueski, par exemple, qui est un immense artiste qui, victime d'insomnie, à chaque réveil, a traduit immédiatement ses rêves, entre guillemets, sur des feuilles de papier 21-29-7. Et on a couvert comme cela des murs d'églises, de cathédrales. Mm-hmm. Œuvre magnifique, voilà.
Il y en a. Quand je prends mon souffle, c'est pas pour vous interrompre. C'est ma façon de vous écouter. Je sais en tout cas que vous êtes intéressé à un photographe que je ne connais pas du tout. Donc je lance son nom, Jean-Marie Fadier, qui fait de la photographie expérimentale. Et ce qui m'a intéressé dans ce que j'ai compris de vos analyses, c'est qu'il utilise aussi des papiers sensibles, des produits chimiques. Au fond, il y a, comme c'est ce que j'ai compris, hein, une envie de recréer de manière onirique la réalité. C'est comme si le photographe regardait les choses dans un sommeil créatif.
Oui, Jean-Marie Fadier, immense photographe, je vous remercie de le citer, trop peu connu, qui réalise des photographies, nous dirions, simplement abstraites. Voilà. Et c'est cela qui m'a intéressée. Comment pouvons-nous aujourd'hui faire des photographies abstraites et aller à l'encontre de l'image commune que nous avons de la photographie.
C'est un abstrait onirique.
Et c'est un abstrait de création. Jean-Marie Fadier va dans des paysages du centre de la France, du Massif central. Et là, il projette sur des feuilles de papier sensible du révélateur, du fixateur. Il prend une branche d'un saule qui pousse à côté. Et il frappe le papier avec cette branche, vous voyez?
Oui, je vois, mais en même temps, je suis évidemment gênée. Il faudrait qu'on voit. Nous sommes en radio.
Il faudrait voir, c'est dommage.
Nous faisons des phrases et merci parce que vous
le lien est là entre photos et phrases. J'ai mis longtemps moi-même à comprendre ces travaux qui sont absolument,
je vous remercie de le faire,
magnifiques. Et Jean-Marie Fadier en est arrivé à cette simplicité d'une photographie vous l'avez bien compris, sans appareil photographique, sans dispositif photographique, sans réalisme, sans rien. Il en est venu, après être devenu expert en photographie numérique. Il était opérateur de cinéma, et puis il en a eu assez de toute cette technologie superfétatoire, débordante. Il a voulu revenir à une certaine simplicité, et donc il a dégagé tout ce qui était pour lui technologie encombrante. Il en est revenu à la simplicité des paysages, à la simplicité de la feuille de papier sensible et à la projection de gouttelettes, de produits de développement, vous voyez, sachant qu'il y a des crues aussi. Hein. Les produits évoluent dans le temps. Donc il a une collection de révélateurs, de fixateurs, qui évoluent, qui ne sont pas les mêmes, qui sont différents, que lui connaît, qu'il peut projeter sur ses feuilles de papier, étant ouvert en même temps sur la dimension du paysage. C'est-à-dire que s'il pleut sur ses papiers, s'il projette les feuilles dans un lac, s'il neige, si des personnes passent, tout ceci se traduit dans sa photographie qui est magnifique.
L'espace du rêve, peut-être aussi l'intensité, comme disait Baudelaire en 1863, de la perception des enfants et des convalescents. Il parle des deux dans le même paragraphe en 1863. Est-ce qu'un poète, un écrivain qui cherche à reconstruire, certes, mais à le faire bien, la discontinuité des instants, ne doit pas chercher, comme le dit Baudelaire, cette chose enfantine, cette chose qu'on retrouve parfois quand on sort d'une maladie? Vous êtes d'accord, Laurent Génie?
Oui, je crois que nous savons tous que dans l'enfance, il y a des expériences privilégiées. Ça me permettrait peut-être de revenir alors sur un mode un tout petit peu critique sur la formulation justement de Bachelard lorsqu'il dit de l'instant, c'est un acte d'attention. Alors sans doute c'est vrai, mais il faut qu'il y ait quelque chose du monde aussi, qu'il y ait une sorte de prégnance perceptive qui amorce cette attention et qui fait qu'on l'entretient. Oui. Et c'est effectivement, bien sûr, dans la nouveauté des impressions d'enfance, que ça se produit très, très fréquemment. Le premier à en parler, c'est Wordsworth, que j'évoquais. Il a écrit un grand poème autobiographique qui s'appelle Le Prélude, en 1799. Et il emploie cette expression qui est remarquable, c'est spots of time, à propos de certaines images de l'enfance. Et ce sont des images qui demeurent et qui ont un pouvoir, dit-il, de fructification imaginative. Elles ne sont pas complètement figées. On peut penser, bien sûr, à toute la suite, à Proust et aux expériences proustiennes.
Thank you.
Bacchanas Brasileiras numéro 5, composé par Villa-Lobos, la voix de René Fleming, c'est le premier mouvement et le début qui annonce ensuite un chant d'un poème de Ruth Valladares, Correa, qui porte sur l'instant, un instant particulier, celui du soir et de la couleur du ciel le soir. Et nous avons parlé de phrases, nous avons parlé de photos. Je voulais qu'on parle comme ça, de manière elliptique, de musique aussi. Merci beaucoup à tous les deux, Laurent Génie et Monique Sicard. Vous nous avez beaucoup éclairé sur ce que peut être la capture de l'instant, même si elle est toujours un peu mensongère. C'est ça qui est beau. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms, qui cette semaine nous parle des jeux, J-E-U-X. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi les jeux peuvent-ils se compliquer ? Le jeu, le fait de jouer, est une activité fondamentale dans la vie humaine. C'est peut-être même sa définition. Les êtres humains sont ces êtres qui sont capables de créer un espace intermédiaire d'activité où il y a des activités et des enjeux vitaux, mais qui sont en quelque sorte transportés, transposés dans une activité qui elle-même n'est pas directement vitale ou mortelle. C'est cette activité qu'on appelle le jeu, qui permet de maîtriser le réel de l'amour, de la mort ou de la guerre, mais qui permet de le faire à travers une activité au fond libre et indépendante et qui a une fin en soi. Le jeu est en ce sens vital, il ouvre ce que Winnicott appelle l'espace où nous vivons. L'espace où nous vivons réellement aussi parce que nous sommes créatifs dans le jeu. Il est important, c'est un aspect qu'on oublie parfois, de noter que le jeu est une activité que nous créons librement. C'est la création d'une activité et de sa propre finalité à côté des finalités vitales, urgentes et communes. Il y a une dimension de créativité minimale. Je suis très joueur, je dois l'avouer, et je peux créer des petits jeux avec n'importe quel objet, dans n'importe quelle situation. Si je n'ai pas des boules de pétanque, ce seront des cailloux. Si je n'ai pas des cailloux, ce seront des grains de sable. Et si je n'ai pas des grains de sable, ce sera dans ma tête, peut-être une pétanque imaginaire pour supporter aussi la violence du monde. Mais les jeux, d'une certaine façon, alors les êtres humains, on comprend pourquoi le jeu peut se compliquer dans la vie humaine. Non seulement être compliqué négativement, par le réel qui refait effraction dans le jeu, les règles de plus en plus subtiles, par exemple ces règles incompréhensibles dans certains des Jeux Olympiques qui permettent d'éviter les contestations, les règles du judo, les règles du rugby, extrêmement compliquées à comprendre pour les profanes, mais aussi ces règles qui permettent d'éviter la guerre. Et effectivement, il y a une différence entre des championnats du monde où on ne joue pas, au fond on est en compétition individuelle, et des Jeux Olympiques qui permettent de ritualiser la guerre entre les nations, les Jeux modernes qui permettent de traiter cette étrange invention moderne qui sont les nations, qui sont vouées potentiellement à la guerre comme les cités antiques. Et finalement, les Jeux Olympiques cherchent avant tout à traiter cette question moderne des guerres internationales. Mais il y a aussi une complication positive des jeux, non seulement pour éviter les guerres, mais pour développer la créativité de l'esprit. Il y a des jeux de plus en plus compliqués, des Rubik's Cube, des Sudoku, des jeux de l'esprit, et d'ailleurs tous les jeux sont aussi des jeux de l'esprit, des techniques de plus en plus perfectionnées, les jeux du Go, des jeux qui développent selon les cultures, chaque culture invente ses jeux, et finalement les jeux se compliquent aussi de manière positive, créative et presque artistique. Ce n'est pas un hasard si, dans sa critique de la faculté de juger, qui est le texte où il parle de l'art, Emmanuel Kant décrit le génie comme l'être qui n'a pas besoin de règles, qui passe au-delà des règles et qui crée par le simple libre jeu, dit-il, de ses facultés. Le génie, alors, c'est la complication spontanée. Quand Mozart ou Beethoven improvisent, quand un grand pianiste de jazz aussi improvise, son jeu est à la fois libre et complexe. Le plus grand degré du jeu humain, c'est d'avoir la plus grande complexité et la plus grande créativité. Alors, le jeu n'est pas seulement compliqué négativement par toutes les complexités de la vie humaine et de ses dangers, il est aussi compliqué positivement par la créativité humaine et jusqu'au génie de l'art et de l'amour.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Ludovic Auger. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Philippine de Bellois, Chaïma Giboire et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.